Bonjour tout le monde, merci pour la curiosité à propos des thèmes, c'était le thème de ma thèse. Et j'ai choisi quelques points et je vais privilégier aujourd'hui parler un peu du contexte des classes multiniveaux au Brésil, au milieu rural, et des résultats de ma thèse. Et je vais essayer de faire ça en 45 minutes pour après avoir un temps pour discuter et entendre quelques questions. Et je veux remercier les personnes qui sont ici, qui ont aidé avec le français la révision. Donc, David, Yon, Émilie aussi. Je ne parle pas un parfait français, mais les diapositives, grâce à eux, je pense que c'est correct. J'ai mis quelques couleurs sur mes diapositives pour vous aider à suivre le processus. Donc, je vais commencer à faire une contextualisation en vert. Après, j'explique un peu l'approche méthodologique de la recherche de terrain, les résultats. Et après, je raconte un peu comment le contexte est ordinaire d'aujourd'hui. Comment ça va, ce programme aujourd'hui au Brésil? La problématique. Donc, nous allons parler de la mise en œuvre du programme Escola Ativa. Et une décennie. Et il a commencé en 1997 jusqu'à 2008. Et cette mise en œuvre, c'était une réponse à une discussion mondiale sur l'accès et la qualité de l'éducation en milieu rural. C'était les écoles les plus défavorisées, les plus faibles, les pires taux d'approbation, tout ça. Et donc, plusieurs organismes internationaux ont stimulé une politique ciblée sur cela. Donc, la Banque mondiale a fait des ententes, les prêts, la UNESCO a écrit beaucoup, la FAO, des agricultures, fondation de FAO, fondation de l'organisation pour l'air. Bon, quelques institutions liées à la ONU. Mais aussi, je vais parler que ce programme-là, la mise en œuvre de ce programme au Brésil, s'est suivi d'une grande discussion sur un projet sur l'éducation rurale par les mouvements sociaux. Et qui commence ça au Brésil, c'est le mouvement des travailleurs ruraux sans terre, qui sont organisés aux années 80. Ils gagnent beaucoup de force, ils organisent un secteur d'éducation. Ils discutent beaucoup la politique de l'éducation pour le milieu rural. Donc, il va poser des questions, des critiques pour le programme qui vient d'emporter par l'entente entre la Banque mondiale et le ministère de l'Éducation. C'est ce processus-là, c'est cette décennie. Je vais raconter un peu. Et je vais raconter un peu de la pratique des enseignants dans quelques écoles. Bon, contextualisation des classes multiniveaux au Brésil. Je vais vous montrer quelques données. Et ici, c'est comment se divise entre le milieu urbain et le milieu rural. Et les enseignants et les inscriptions des élèves. Donc, environ à cet âge-là, entre 6 et 10 ans, 20% des enseignants sont inscrits au milieu rural et 80% au milieu urbain. Et ça gâte à porte avec la population totale. Quand tu vois les statistiques démographiques au Brésil, 20% de la population, c'est au milieu rural, 80% au milieu urbain. Et les enseignants, c'est presque la même chose, mais un peu moins d'enseignants dans le milieu urbain. La relation entre enseignants et élèves. Par rapport aux établissements d'éducation, ce sont des écoles très petites, ce sont des écoles de rang. Donc, presque la moitié des établissements d'éducation sont au milieu rural, mais parce qu'ils sont très petits. Et de ces établissements au milieu rural, 59% sont des écoles qui ont des classes multiniveaux. C'est une donnée un peu datée de 2005, mais ça continue, c'est comme ça. Je vais ouvrir le Google Earth pour montrer une municipalité donnée, que c'était la municipalité où j'étais allé. Et trois petites choses sur les milieux ruraux au Brésil. À voir si ça marche. Non. Bon, c'est ça. Je vais vous montrer un peu la région du Brésil. Donc, nous sommes ici au milieu du Brésil, proche à la capitale, un peu loin de Rio, où je faisais mon doctorat, un peu loin de Belo Horizonte, où c'était ma ville. C'était ici, dans cette municipalité qui s'appelle Morrinhos. Nous avons un siège, la partie urbaine, où habitent 33 000 personnes, 8 000 personnes habitaient au milieu des ménagers, au milieu rural. Vous pouvez voir, c'est une ville agricole, donc il y a beaucoup de projets d'irrigation, l'élevage aussi de vaches, de bœufs, c'est ça. Et l'industrialisation garde à porte avec l'agriculture. Il fait des tomates en conserve, c'est un produit de cette ville. Et nous avons 5 écoles, dont 3 types différents d'écoles. Les écoles plus traditionnelles sont les écoles de village, donc celle-ci et celle-ci. Et les écoles qui sont dans les établissements de la réforme agraire sont des écoles un peu plus précaires, nouvelles. Ce sont ces deux écoles. Cette école, c'est la plus précaire, c'est dans une ferme. C'est moins d'élèves, plus précaire. Il y a une chercheuse brésilienne qui explique un peu les différences entre les représentations des enseignants dans ces 3 types différents de terrains. Je vais vous montrer comme cette région-là. C'est l'école, c'est dans un village. Quand je dis village, c'est vraiment quelques maisons éloignées l'une d'autre, proches en terrain d'agriculture. Un autre village, c'est celle-ci, très petit aussi. Et il y a un commerce pour là, les laits, les coopératives de lait qui récoltent des laits pour vendre. Ça, c'est une école aussi, un très petit bâtiment. Et bon, et cette école, c'est proche d'une école de technique d'agriculture. Très petit, c'est dans un établissement de la réforme agraire. Ça veut dire qu'il y a plusieurs lapins de terre, les classes moyennes des producteurs ruraux qui habitent proche à l'école. Ce n'est pas comme une ferme, ce sont les travailleurs qui travaillent dans la ferme qui sont allés à l'école. C'est un peu différent la dynamique. Et cette dernière école que je vais vous montrer, c'est très spéciale parce que c'était nouvelle. Sa construction, c'est après 7 ans de campement que le mouvement rural sans terre a fait dans cette ferme pour demander sa expropriation. La réforme agraire, c'est toujours comme ça. Au Brésil, ça commence avec le mouvement de lutte par la terre qui arrive dans une certaine ferme donnée comme improductive. Il la sont établissée dans cette. Il demande au ministère de faire la expropriation, qui s'est divisée dans des lapins pour travailler. Donc, cette photo, c'est de 2003. Vous voyez, il n'a pas grand-chose comme production agricole. Mais après, quand j'étais là, 2007, 2008, oui, j'avais déjà construit leur maison et ils étaient établis dans cette région. Bon, c'est seulement ça pour donner une idée. Je sors d'ici. Au revoir. F11. OK. Bon, j'ai mis quelques photos pour voir la région. Hein. Ça, c'est ouf, c'est un peu clair. Mais c'est les transports scolaires, les rangs qui donnent accès à l'école. Il y a des gros voyages à faire. Donc, cette école, ça prend 1h30 pour arriver. C'est l'école de la dernière que j'ai montrée au établissement de la réforme agraire pour aller pour utiliser l'asphalte. L'asphalte? OK. Et cette autre école, c'est différent parce qu'il y a l'asphalte qui arrive juste proche de l'école. Mais l'enseignante qui sort de la voiture, elle paye pour quelqu'un qui l'amène en voiture et elle va avec ses transports loués. Elle loue sa voiture pour l'amener à l'école. Ça, c'est le transport des élèves. C'est une Volkswagen. Et c'est une autre école de l'établissement de la réforme agraire que j'ai montré. Cette école, c'est une école. C'est l'ancien siège d'une ferme qui était transformée dans une maison d'un côté et une école d'un autre côté. Elle était divisée. Donc ici, c'est l'école et ici, c'est une maison. Et très précaire, ces bâtiments, ils disaient, c'est pas une école. Ils voulaient ou fermer l'école ou faire un nouveau bâtiment pour l'école. C'était vraiment provisoire. Bon, j'entre donc à la recherche, ce que je vais vous parler. Les deux objectifs que je vais travailler sur, c'est identifier les processus d'adhésion et de résistance dans la mise en œuvre du programme scolatif par les enseignants et d'autres acteurs. Et le deuxième, identifier et analyser les changements dans l'organisation du travail enseignant à partir de l'implantation du programme scolatif. Est-ce que ça change ou non? Qu'est-ce qui change? C'est ça que je veux montrer. Je dois vous dire que les programmes, ça commence en Colombie. C'est qui, pour sa foi, commence les années 60 avec un projet de l'UNESCO pour les écoles unitaires, pour le milieu rural. Dans les années 70, il y a un groupe d'enseignants qui prend ces projets de l'UNESCO, ils le transforment dans un nouveau projet, ils font quelques critiques. Et c'est un projet qui marche très bien. Et il reçoit le soutien de quelques secteurs privés dans les départements centraux en Colombie. Donc les caféiculteurs qui aident le programme, ça va durer pendant 20 ans. Et ça va être reconnu par les organismes internationaux. Entre les années 70 et la fin des années 80, et il y a un prêt de la Banque mondiale pour nationaliser ce programme. Il est très connu dans le monde. Les principes pédagogiques du programme, ça part de l'école nouvelle, donc Dewey, et Montessori, Célestin Freinet, c'est la pédagogie active, donc l'élève construit son propre apprentissage. Et les enseignants, comme gestionnaires de classe, pas pour expliquer les contenus, mais pour aider les élèves avec les guides à construire ses propres connaissances. Et ils travaillent avec les guides d'enseignement pour suivre les contenus. Et il y a quelques outils très, très importants pour la gestion, qui sont liés à l'idée de gestion démocratique, les élèves qui font la gestion de l'école, et la participation de la communauté, ce sont les principales lignes qui sortent du programme. Et donc, pendant les années 90, il a une grande répercussion mondiale. Et il y a quelques papers qui sont sortis pour les World Bank, l'UNESCO et quelques think tank comme le PREAL en Amérique latine. Et la réforme de l'éducation pendant les années 90, dans tout un pays d'Amérique latine, et entend parler de ce projet, de cette possibilité d'implémenter. Donc la Nicaragua et d'autres pays qui font le projet. Nicaragua, en Amérique centrale, le Chili, il y a des pays qui commencent à implémenter, et le Brésil, les années 97. Le contexte pour les politiques, publiques, c'est des réformes en Amérique latine, donc critique à la bureaucratie, la nouvelle gestion, décentralisation et optimisation des dispenses sociales. Et les politiques ciblées dans les plus pauvres, dans les milieux plus défavorisés. Et les réformes sont faites, sont des pays pauvres et très endettés. Donc les prêts de la Banque mondiale suivent des conditionnalités. Tu peux faire cette réforme, mais nous avons des techniciens. C'est très techniciste avec l'aide des techniciens de la Banque mondiale. Ils donnent la direction de ces réformes. Dans ce contexte, les politiques pour l'éducation au milieu rural au Brésil, la direction c'était de la fusion des écoles. L'idée de que les écoles multiniveaux sont très petites, donc très précaires, très chères. Donc il fait des fusions pour avoir davantage de ressources, pour favoriser les travail des enseignants. C'est en tendance et les programmes Escola Ativa ou Escola Nueva, il vient dans une autre direction pour favoriser l'école multiniveau dans ces pays. Ça, c'est comment ça passait pendant la décennie. Et au Brésil, ça commence avec l'invitation de la Banque mondiale pour aller en Colombie et voir l'expérience des Colombiens en 1996. 1997, se sont traduits les guides. 1998, ça commence dans deux États brésiliens, Sergipe et Alagoas. Ça, c'est une entente qui s'appelle Nordeste, Projet Nordeste. Il y a une autre entente, c'est le Fonds d'Escola. Ça continue jusqu'à 2008 avec la mise en œuvre dans d'autres écoles. Ça arrive à 10 000 écoles en 2007 quand il y a une évaluation du programme. Ça va continuer ou non? Et ça vaut la peine. Mais oui, le ministère était intéressé de suivre avec le programme. Les évaluations étant, oui, il y avait des évaluations positives et négatives. Ils ont décidé de continuer. En 2008, il est reformulé, il est nationalisé, et dans le ministère même, sans l'aide de la Banque mondiale, sans la carte de l'entente. C'est le plan de développement de l'éducation, de le ministère de l'éducation brésilien. Bon. L'autre mouvement, ça suit parallèlement. Et l'organisation des éducateurs de la réforme agraire, l'année où l'expression « éducation do campo », c'est le nom qu'ils ont donné pour nombrer cette nouvelle subjectivité politique qui émerge des mouvements sociaux. C'était dans ce congrès-là, en 1997. Ils font d'autres congrès où cette idée de que le mouvement social il peut essayer de construire une politique qui répond à leurs besoins, plus contextualisée et plus émergente. Et ça commence au même temps que la mise en œuvre du programme au Brésil. C'est en même temps. Donc, la Banque mondiale d'un côté et les mouvements sociaux d'autre côté. Et l'année 2002, cette discussion, elle gagne de relevance. Le Conseil de l'éducation, le Conseil national de l'éducation, il écrit des directives opérationnelles de l'éducation de base du campo. C'est un groupe qui se réunit avec le ministère pour écrire que ça fait partie de ce que nous voulons pour l'éducation au Brésil, dans le milieu rural. Et avec le changement du gouvernement, les partis des travailleurs, ils entrent au pouvoir en 2003. Ça crée des conditions aussi d'institutionnaliser ces mouvements dans le ministère de l'éducation. Donc, en 2004, il y a un endroit dans le ministère où ces groupes vont s'articuler, s'organiser pour implémenter, pour changer ces politiques selon l'idée de l'éducation du campo. En 2005, le programme change. Donc, il y a un chapitre qui est ajouté à matériel de formation pour dire que, OK, c'est le programme scolaire actif, mais nous croyons que c'est l'éducation du campo, qu'il faut respecter la diversité culturelle et contextualiser. Bon. En plus d'étudier la politique, j'ai fait une recherche de terrain avec les enseignants dans cette municipalité que j'ai montrée. Et c'était une étude de cas. J'ai fait une analyse collective avec les enseignants en essayant de faire émerger des catégories pour analyser leur travail avec la perspective de participation, de transformer leur travail, de pouvoir penser et changer quelque chose, critiquer le programme. Et les catégories marxistes pour analyser le travail que j'ai créé les dynamiques pour favoriser la discussion autour de cette thématique-là, ce sont la professionnalisation, la précarisation, intensification, ruralité. Et j'ai utilisé le travail de Maurice Tardif, Claude Lessard, qui, sur la lier une analyse plus macro, une analyse plus micro avec les acteurs, pour voir les processus, comment ça va et ça revient entre les deux nucléaires. Étape de la recherche. J'ai commencé avec quelques entrevues dans la coordination nationale du programme. J'ai choisi l'État de Goiás. J'ai connu la coordinatrice de ces programmes dans l'État. J'ai fait un premier voyage, une étude exploratoire en 2006. J'ai choisi la ville de Morrinhos, qui était la plus accessible. Et j'ai réalisé les séminaires. C'était que j'ai discuté avec les enseignants, les programmes, les changements qui ont passé. Collecte de données. Travail des documents, entrevues, questionnaires. Questionnaire pour des données plus objectives, comme les profils des enseignants, des écoles, et les séminaires pour vraiment discuter avec les enseignants. J'ai utilisé une dynamique que j'avais déjà travaillé avec Dalila, au GESTRAD, le groupe de recherche, pour discuter le travail enseignant dans le milieu urbain. C'est la dynamique de l'horloge pour discuter l'organisation du temps, l'intensification du travail. La dynamique du panneau, c'est de représenter l'école, l'espace, j'avais déjà utilisé. Travailler en groupe, après discutons de qu'est-ce que ça a changé dans l'organisation du travail, les moyens matériels qui sont là, qui ne sont pas là. Après, une dynamique plus ouverte, que j'ai appelée les groupes d'analyse de la situation éducative, où les groupes posent des questions uns aux autres, ils essaient de travailler ces questions ensemble pour voir quelque chose plus en bas, dans les fondements de ces questions. Et une évaluation collective aussi, j'ai usé comme source de données. Bon, je vous montre quelques photos du séminaire. Ça, c'est la dynamique de l'horloge. Et ce sont les enseignants qui travaillent ensemble dans cette salle, dans la siège urbaine, non? Elles sont toutes venues du milieu rural. Plusieurs habitent proches des écoles. Nous étions proches à la mairie ici, en discutant le travail pendant un jour, un samedi. Marie-José était là aussi. Et ça, c'est l'autre dynamique de l'affiche, où ils font l'école comme elle était avant le programme, après le programme, pour discuter qu'est-ce qui a changé. Ce sont les enseignantes. Bon, je vais vous montrer les résultats à partir de ce que j'ai mis comme objectif. Les premiers, c'était les profils des enseignants. Et 9 enseignants ont été allés pour discuter avec moi dans les séminaires. L'âge entre 22 et 24, les plus jeunes, jusqu'à 39, 42, les plus vieux. Relation de travail. Il n'y a pas de commission scolaire au Brésil. Elles sont embauchées par les municipalités. Donc, 3 parmi les 9 avaient des contrats précaires, temporaires. Ici, c'est des contrats permanents avec les mairies, les plus vieux. Et ça, c'est pour savoir si elles sont proches à la communauté où elles travaillent ou loin. Et donc, 3 entre ces 9 habitaient loin, voyageaient à chaque jour pour les villages, pour l'école, à l'école. Et les autres ici habitaient proches, utilisaient davantage les transports scolaires ou la motocyclette pour arriver à l'école. Niveau de scolarité, il y avait 3 qui n'avaient pas les minimum, la formation de base pour travailler comme enseignante. Et celle-là, qui était permanente, faisait son baccalauréat pendant les vacances. Et c'est là, non. Et j'ai mis un plus pour dire qu'elles ont un diplôme d'études approfondies, quelque chose qu'elles ont fait après le baccalauréat. Ça donne une différence dans les salaires et aussi un peu plus des années de scolarité. Expérience, travaillant comme enseignant, ça va de 3 mois, cette enseignante qui venait de commencer à travailler jusqu'à 20, 26 ans. Ces enseignants travaillent dans une école plus traditionnelle, celle qui était dans un village. Et il y a quelques différences. Où elles travaillent. Caractéristiques des écoles. 5 écoles, j'ai montré dans Google Earth. Ces 2 sont dans les villages. Nombre d'élèves, 22, 35. Et nombre de classes et d'enseignants. Donc, 11 élèves par enseignant, 11 élèves par enseignant. L'édifice permanent, donc construit pour être une école. Et dans ces écoles, dans cette municipalité, tout le monde avait un personnel de soutien, mais soutien, c'est la conciergerie, c'est les personnes qui travaillent avec les repas, avec le nettoyage des bâtiments, des édifices. Et fonctionnait aussi une demi-journée, ou l'avant-midi, ou l'après-midi. C'est comme ça, les écoles. Je montre quelques photos. Une école de village avec 2 classes. Une autre école de village. Il y a beaucoup de terrain. Et le programme, il dit que les groupes de l'école doivent faire un potager, pousser des choses pour manger. Et toutes ces écoles avaient le projet d'un potager, mais c'est vraiment difficile pour les enseignants. Donc, je n'ai pas vu un potager fait, mais j'ai toujours entendu parler du potager. Il doit être là. Ah, ça, c'est cette école, c'est un siège de ferme adapté. C'est une classe, mais deux groupes. C'est divisé. Ça, c'est la division entre la classe d'alphabétisation et la classe des plus âgés, entre 6 et 10 ans. Bon, résultat. Et qu'est-ce que nous avons vu comme adhésion au programme École Active? C'était une surprise pour moi parce que j'avais mes préjugés à propos d'un programme top-down qui vient de la Banque mondiale. Et ce que j'ai vu, c'est que les enseignants, ils étaient d'accord avec le programme. Ils disaient, non, c'est bon, c'est meilleur que ce que nous avions avant. Les matériels que l'école reçoit, c'est bon. Et les élèves apprennent à lire et écrire plus vite. Ça, c'était les enseignants qui disaient, mais aussi les responsables locaux, la coordination du programme de la ville, c'était comme, non, c'est bon, c'est bon. Ils n'avaient pas de ressources. Donc, nous avons reçu les globes, les skeletons, des choses très intéressantes. Les élèves aiment ça. Les enseignants ont dit aussi que les élèves deviennent plus autonomes parce qu'ils travaillent en groupe, ils travaillent dans les coins d'apprentissage, ça marche, ça, c'est vraiment bon, c'est différent. Et moi, j'étais comme, OK, c'est bon. OK. Ça marche, oui, ça marche. J'ai mis comme adhésion, mais ce n'est pas vraiment une adhésion, c'est une concession que les groupes qui se réunissent autour de l'idée d'éducation du campo, donc éducation de la campagne, ils disent que, bon, quand même, c'est bien le programme scolatif parce qu'il soutient l'école de village. C'est meilleur que faire les fusions des écoles parce que les étudiants sont là, proches de leurs parents, il n'y a plus de participation. Et les ressources arrivent aux écoles multiniveaux. C'est très important d'un enseignement contextualisé et l'école active, ça respecte ça. Ça va dans le même sens. Donc, ça, c'est la photo pour dire que ça marche. Les élèves travaillent en groupe, sont très intéressés et ils jouent avec les jeux de mathématiques. Il y a les coins de mathématiques, les coins de lecture, les livres qui sont là. Ça, c'est un autre coin, coin de lecture, les travaux que les enseignants, les élèves font. Un autre coin de géographie, peut-être. Mais les enseignants, là, c'est le type de matériel qu'ils n'avaient pas avant. Et les élèves aiment ça. C'est très bon. Les maps, les livres. Bon, et les résistances, les problèmes, les questions qui ont surgi à partir du programme. Les enseignants commentent sur certains changements qui créent des problèmes pour eux. Et l'évaluation qualitative individualisée est difficile à faire. Le programme demande aux enseignants qu'ils fassent à chaque jour, pour chaque élève, une évaluation de leur progrès. C'est beaucoup de travail, c'est difficile à faire ça. Les parents demandent des évaluations quantitatives. Donc, c'est pas clair, les parents... C'est pas seulement les parents qui veulent ça, parce que c'est traditionnel, mais quand quand les élèves sont en âge d'aller à la ville, quand ils sont 11 ans, il n'y a pas d'école multiniveau pour 11 ans, les autres enseignants demandent des évaluations quantitatives. Ce n'est pas clair, le système garde des contradictions, ça crée des problèmes pour les enseignants. Il faut travailler l'autonomie des élèves. Ils ne savent pas travailler seuls avec les guides. Ça, c'est l'idée de qui... Bon, la conception du projet dit qu'avec les guides, les élèves pourront travailler tout seuls, en groupe, et ça laisse du temps pour l'enseignant pour faire d'autres types de choses, pour organiser le travail, pour faire des évaluations. Mais les enseignants disent que ça ne marche pas comme ça. Les élèves sont toujours, ils demandent des attention, demandent de l'aide pour travailler avec les guides. C'est pas évident ça. Et le mécanisme de gestion scolaire avec la participation des élèves, c'est compliqué. les élections pour faire les représentants de la classe, pour organiser un groupe pour faire le potager, un groupe pour recevoir des visitants. Les élèves ne sont pas prêts à travailler comme ça. Et pour les enseignants, c'est difficile d'administrer ça. Le programme dit qu'il doit travailler avec la gestion démocratique, collective, mais c'est un processus et ce n'est pas évident que ça va marcher comme ça. Résistance au programme pour les champs de l'éducation de la campagne. Il dit un seul guide pour toutes les communautés rurales du Brésil. Ce n'est pas simplement la question d'être loin, mais il y a des types de familles qui travaillent avec l'agriculture, il y a des familles qui travaillent avec la pêche. Ça crée des différences culturelles importantes, la forme de production. Et autre chose qu'il dit, c'est que la conception du programme est naïve par rapport à la participation et la démocratie. Et, du point de vue de la gestion et du point de vue pédagogique. Donc, du point de vue pédagogique, c'est que c'est trop individualiste, c'est travailler en groupe, mais c'est très conteudiste, c'est ça qu'il dit. Et de la gestion, c'est la démocratie participative, oui, mais ce n'est pas vraiment créer de nouvelles connaissances, de transformer la façon de travailler à l'école. Il y a quand même beaucoup de balises, des choses qui sont fermées. Il dit qu'il est démocratique, mais ce n'est pas ouvert au changement. C'est ça, les critiques qu'il fait les chambres d'éducation de la campagne. Il est responsable local, j'ai mis comme résistance, mais ce n'est pas une résistance, c'est plutôt une critique. Ils sont davantage, ils adhèrent au programme, ils disent qu'il est bon, mais ils pointent quelque chose qui ne marche pas. Donc, le micro-centre, qui c'est un outil pour travailler avec les enseignants, les changements du programme, les critiques, il y a quelque chose qui est sur le projet, qu'il doit se réunir une fois par mois pour discuter, pour changer, pour faire l'update du programme. Ça ne marche pas, les enseignants ne donnent pas de feedback. Donc, il dit que ça pourrait être utile pour un programme plus participatif, mais ça ne marche pas comme ça. Et autre chose qu'ils ont dit, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources pour faire le suivi des municipalités et des écoles. Pour la coordination de l'État, c'est trop cher d'aller aux écoles pour accompagner le travail. Et pour le responsable local qui travaille les municipalités aussi, c'est loin. Il dit que c'est difficile à faire le suivi. Une autre photo pour montrer que ce n'est pas toujours travailler en groupe. Ça, c'est un peu fâché peut-être. Mais il a des difficultés. Changement dans l'organisation du travail. Qu'est-ce que le programme a changé? Ça garde rapport aussi avec les adhérences et les résistances, évidemment. Mais quelque chose que les écoles ont gagné, c'est les matériels de lecture et de recherche pour les coins, la nouvelle forme de regroupement des élèves, les coins d'apprentissage. C'est quelque chose qui change, c'est pour bien fonctionner l'école. Et changement négatif, il dit que les guides, c'est parfois mauvais. Donc, ça crée des difficultés pour adapter les contenus. Et parfois, il y a des choses qui ne sont pas très bien contextualisées. Ce n'est pas la culture de l'élève. C'est aux enseignants d'adapter ça. Parfois, les guides arrivent tard. L'école fait l'adhésion au programme, il n'a pas de guide. Elle doit faire l'éducative, mais sans le guide, parce que c'est difficile. Ça doit sortir du Brésil et arriver à l'école. Ça crée des difficultés. Un commentaire, c'est, je voulais parler des changements, mais c'est toujours des conditions qui continuent et qui sont très importantes, comme vous dites, des conditions matérielles. Ce sont les conditions matérielles qui sont critiquées. Ça ne garde pas nécessairement des rapports avec le programme, mais c'est des choses que les enseignants attendaient, les changements, et ça reste comme ça. Et ce sont les ressources qui manquent. Les enseignants ont dit que les écoles n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas de téléphone. Les DVD et les téléviseurs, parfois les enseignants amènent de chez eux pour l'école, pour travailler. Ils ne sont pas très bien entretenus. Donc, si quelque chose se casse, s'il y a une salle de bain qui ne marche pas, c'est trop difficile à régler ça avec la mairie Parfois, c'est plus facile d'appeler un parent et le parent va et avec ses propres ressources corrige le problème. Une photo pour montrer le matériel de lecture, les bouquins qui sont encore fermés, qui viennent d'arriver, des guides. Ça, c'est une école, c'est une photo que j'ai prise dans les ouvertures de terrain, les premiers voyages, mais c'est une école que les enseignants font les dîners pour les élèves, dans une salle de classe. Ça, c'est la cuisine, ça, c'est la classe d'alphabétisation. Ça, c'est moi quand j'étais plus jeune. Anticipation du travail. Et qu'est-ce que les enseignants disent qui a changé? Les élèves ont besoin de surveillance, même dans les moments où ils doivent travailler seuls. Ce qui empêche alors l'enseignant de consacrer à d'autres tâches. C'est ça, le présupposé de l'autonomie des enseignants, des élèves, quand ils n'ont pas encore de temps pour construire ça. Et les nouvelles tâches liées à l'évaluation et gestion s'ajoutent à plusieurs autres tâches traditionnelles. C'est que c'est OK, faire l'évaluation, c'est bien, et travailler la gestion avec les parents, c'est bien, mais nous avons déjà beaucoup de choses pour faire pour les écoles. Ça nous amène à la continuité. Aider les élèves qui sont malades, faire la nourriture, ce type d'activité que les enseignants ont encore. D'autres continuités liées à l'intensification du travail. Et j'ai vu que les enseignants qui commencent à travailler, ils sont désignés pour les écoles plus précaires, plus éloignées. Ils travaillent seuls dans les conditions plus précaires, ils n'ont pas d'expérience. C'est comme ça ici, j'ai déjà ça se passe. Et ils travaillent beaucoup hein, pour essayer de faire quelque chose dans ces conditions-là. C'est l'intensification du travail. Et les dynamiques de résolution des problèmes aussi, c'est pour faire chaque chose à l'école, c'est la responsabilité des enseignants. Donc, les salles de bain, c'est toutes les choses, c'est eux qui doivent travailler. Donc, les dîners, l'enseignante prépare quelque chose pour les élèves. Prolongement de la journée. Qu'est-ce qui a changé? Le travail pour assurer la participation des parents à l'école, le programme demande la participation de la communauté, et l'entretien du potager, c'est une chose, même s'il n'y a pas faim, c'est la charge, c'est penser idéalement, je dois faire ça avec mes étudiants, mes élèves. Continuité de l'approchement de la journée. L'obligation de rester à l'école au-delà du délai fixé pour attendre les transports. Il y a beaucoup d'enseignants qui dépendent du transport public. Ils n'arrivent pas, quand ils terminent leur fonction, ils doivent attendre que le dernier élève va avec les transports. Il reste beaucoup de temps à l'école. Une autre chose, c'est la responsabilité, non? Les compromis avec les résultats du travail. Ça, c'est un enseignant qui a dit, je pense qu'il n'y a pas un professeur qui quitte la salle de classe, il va à la maison sans penser au travail. Nous avons déjà cette responsabilité. Moi, je sens une obligation que l'élève doit apprendre. Donc, ce sont les enseignants qui travaillent pendant la fin de semaine, travaillent plus tard de la maison. C'est une demi-journée, mais la autre moitié, ils sont à la maison, ils préparent les activités. C'est beaucoup de travail, même s'ils travaillent 24 heures par semaine dans les contrats. Et quelques perspectives. J'aime ici de l'importance des études inductives sur le travail enseignant en milieu rural. Et l'Institut national de recherche pédagogique, INEP, il a beaucoup de données sur l'éducation de base, mais plutôt les données quantitatives, que les responsables locaux font des formulaires. Et pour cette réalité-là, c'est très difficile à faire des recherches, c'est cher. Et même des études plus qualitatives, comme un qui l'an passé, j'ai participé avec Dalila pour le travail d'enseignant dans l'école de base au Brésil, il exclut les écoles rurales parce que c'est comment aller là-bas dans ces écoles? C'est éloigné, c'est difficile, c'est très peu. Ce n'est pas nécessairement représentatif. C'est les 15 % des enseignants qui travaillent dans l'école fondamentale, qui travaillent là-bas. Mais quand même, ça, il y a le besoin de données pour penser comment changer cette réalité. Donc, ce type d'études, je pense, sont utiles pour connaître un peu mieux cette réalité. Notre perspective, c'est l'importance de la synergie avec d'autres politiques publiques pour le milieu rural, de façon à promouvoir l'efficacité de la politique. Les discours de l'éducation, c'est très puissant, donc il faut amener la politique éducative dans les coins les plus éloignés. Mais ces familles-là, elles ont besoin aussi de travailler dans des conditions dignes. Donc, l'importance de la réforme agraire, ce n'est pas simplement donner un lapin de terre, mais des conditions de travail, d'organisation dans les coopératives. Et les politiques de santé aussi, c'est précaire. La vie, ce n'est pas l'école qui est précaire. La vie de ces familles est précaire. Il faut penser dans cet contexte aussi. Mise à jour. Bon, avant de vous pour question, je voudrais vous dire que ce programme continue. Et l'an passé, j'ai travaillé dans la formation pour l'État où j'habitais, où j'habite, Minas Gerais. Ce sont des nouvelles municipalités qui prennent cette technologie éducative pour les écoles multiniveaux. C'est tout le Brésil, c'est ouvert pour tout le Brésil. Avant, avec la Banque mondiale, c'était seulement les régions les plus pauvres. Maintenant, non, c'est tout le Brésil. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et la participation des universités publiques pour la formation, ça apporte aussi des critiques, des éléments différents pour favoriser l'échange entre les différents acteurs qui discutent la problématique de l'éducation du campo. Maintenant, c'est un programme de l'éducation du campo. Quand je dis programme scolatif, il garde rapport avec le secteur du ministère de l'éducation du campo, de la campagne. Et donc, ce discours, cette subjectivité politique, ça arrive aux municipalités les plus traditionnelles. Et c'est assez critique, ça. Il travaille avec Paulo Freire, une perspective socialiste d'éducation. C'est un processus très riche et très intéressant. Je pense que c'est une chose très spécifique du Brésil, non? Si quelqu'un d'entre vous veut étudier la politique publique d'éducation au Brésil, c'est intéressant de voir qu'est-ce que ces mouvements ont créé comme critique, comme appropriation d'un projet, non? Et donc, c'est ça, c'est encore vivant. Il y a encore des choses à discuter, à penser ensemble. Et je vais montrer quelques photos pour commencer à discuter d'une façon plus ouverte sur ce que vous voulez. C'est ça. Merci.